permettre d'introduire Nadia à travers le Ramadan. Voilà. Alors, nous avons connu Nadia Elfani.
Je suis la personne idéale.
Voilà, nous avons connu Nadia Elfani comme étant une militante, disons, pour les droits individuels, franco-tunisienne, donc qui a bercé dans deux cultures. En fait, cela dit en passant, ce que je pensais en fait à vos quatre parcours qui sont exceptionnels, il y a beaucoup de liens en fait entre vous quatre. Vous avez toutes les quatre donc étudié dans des missions françaises, donc vous êtes le produit de l'école française. Vous êtes très ancré dans vos cultures de pays de naissance, je dirais. Vous avez aussi évolué dans des milieux quand même très ouverts. Pardon ?
Nous ne sommes pas très ancrés dans la culture de notre pays de naissance. Moi, je me sens éminemment républicaine et française.
Vous nous le direz tout à l'heure, Lydia, parce que quand...
Nous partageons toutes les deux...
Vous nous le direz tout à l'heure dans le débat. Alors, permettez-moi de revenir à Nadia Elfani, qu'on a connue à travers ce magnifique film, hein, vous vous souvenez tous, Laïcité, Inch'Allah. Et là, on a vu une nana, crâne rasé, péter l'écran, qui était là et qui nous parlait donc avec des mots très simples et qui dégageait donc une force absolument exceptionnelle. Alors, Nadia, rappelez-nous le contexte d'abord de la sortie de ce livre et dans quel état, du film, et dans quel état d'esprit en fait vous vous retrouviez à cette époque-là lorsque il y a eu donc un tir de barrage contre vous lorsque vous avez donc fait cette déclaration d'athéisme public.
Oui, d'abord, je dois quand même rappeler, on a quand même des parcours très très compliqués à comprendre. Hein. Moi, je suis de mère française, je suis né à Paris, mais j'ai grandi en Tunisie à partir de l'âge de 1 an. Donc voilà, c'est comme si j'y étais né, mais j'y suis pas né. Mon père est tunisien et ils sont tous les deux communistes. Et il a été même lui un des dirigeants du Parti communiste tunisien qui n'était pas du tout affilié à l'URSS parce que j'entends déjà Staline, 20 millions de morts. Donc voilà, je veux une petite précision. Et donc je suis élevée dans cette idée de... On se bat, on est marginal, on est marginalisé. Le parti est interdit, c'est un parti unique en Tunisie, le parti de Bourguiba. Et c'est un peu la clandestinité, les écoutes téléphoniques, les copains qui passent pour les réunions à la maison en frappant avec des signes très particuliers. On passe par les terrasses, enfin... C'est un truc très particulier quand même, parce qu'on me demande souvent d'où ça vient cette idée de toujours vouloir se battre, etc. Mais quand on a été élevé au biberon avec ça, c'est difficile de faire autrement. Donc voilà, je grandis en Tunisie. Après, je passe quand même une partie de mon adolescence en France et je décide de repartir vivre en Tunisie et faire mes films là-bas avec ma société de production. Et bon, comme vous le savez, Ben Ali, qui s'appuie quand même sur la dictature mise en place par Bourguiba, devient de plus en plus féroce. Et en 2002, je décide de quitter la Tunisie, de venir m'installer en France avec ma fille pour qu'elle connaisse un peu ce que ça veut dire la liberté. Donc, et je dis toujours, peut-être que j'aurais jamais eu l'idée de faire les films que j'ai faits à partir de la France si j'étais restée en Tunisie, parce que non pas que je cède à l'autocensure, je pense que quand on me connaît, on peut imaginer que c'est pas du tout mon style, mais c'est des choses qui vous prennent, quoi, qui vous prennent à la gorge et qui cassent l'imagination. C'est pour ça que des fois, quand on dit à certains peuples « ils n'ont que les gouvernements qu'ils méritent », quand même j'ai du mal avec ce genre de raisonnement. Donc, je viens en 2002 en France et je me dis, il faut jamais que j'oublie que si j'ai accepté de quitter la Tunisie, c'est parce que je suis convaincue que l'alternance se fera par les islamistes. Voilà. C'est pour vous dire, alors qu'on est à 9 ans de la révolution, et vraiment j'ai ce sentiment. Donc, je pars faire un film sur mon père et le Parti communiste tunisien en 2006, où je lui pose déjà des questions sur l'athéisme et je lui reproche pourquoi dans leur mouvement de gauche, ils n'ont jamais osé revendiquer pas seulement un État laïque, mais d'être athée. Parce que quand même, la caractéristique de ces gens de gauche, en tout cas les communistes, hein, excusez-moi, pour qui j'ai beaucoup de tendresse, c'était quand même d'être des athées. Et ils élevaient leurs enfants là-dedans, avec des valeurs d'honnêteté, de probité, d'intégrité, de solidarité, enfin tout ce que, soi-disant, les religions prônent, hein, mais en tout cas, voilà. Donc c'était très important pour moi de lui poser ces questions et de lui reprocher ça. Pourquoi ? Et là, en faisant mes recherches, parce que j'aime bien remonter un petit peu à la genèse, hein, ça va être un petit peu long peut-être, mais dans mon film, parce que moi je traite avec beaucoup de légèreté toujours tous ces sujets très graves, je cherchais toutes les interprétations de l'international que je pouvais trouver, qu'elles soient gypsy, donc en arabe évidemment. Et je trouve évidemment une interprétation de Marcel Khalif qui a traduit l'international en arabe. Et à la strophe de « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni maître, ni tribun », je ne sais plus, eh bien, c'est pas traduit. C'est traduit par autre chose. Et là, je dis « Tiens », et j'en parle à un copain qui est interviewé dans le film, aussi un militant plutôt maoïste, et qui me dit, mais nous, en prison, sous Bourguiba, on l'a traduit, nous, les Tunisiens. Et les Tunisiens l'ont traduit. Et eux, ils n'ont pas eu peur de traduire la Allah, la Sidi, etc. Donc, quand je pars faire ce film qui va devenir Laïcité, Inch'Allah, au début...
En 2009
En 2010, août 2010, on est encore sous la dictature de Ben Ali. Et là, je me dis, ça fait rien, maintenant, j'en ai marre. Tant pis si je dois ne plus jamais retourner en Tunisie, je vais mentir sur le sujet de mon film pour obtenir l'autorisation de tournage, hein, parce que c'est pénal si on ne tourne pas le film qu'on a dit qu'on vient faire. Et donc, pour faire plaisir à la dictature, je leur fais croire que je viens faire un film sur le Ramadan et les joies du Ramadan.
Ah ben voilà.
Donc voilà. Ça vient de là, Jaoum Ta Ramadan. Et donc, je leur dis pas que le film, en fait, s'appelle La désobéissance. Donc, sur tous les dossiers français, il s'appelait La désobéissance. En Tunisie, il s'appelait Les joies du Ramadan. Et donc, je tourne ce film, mais en fait, je tourne un film pour dire il y a des résistants à Ramadan, même en Tunisie en 2010 sous Ben Ali. Et à l'époque, j'avais l'exemple du Mali, dont vous parlera certainement Betty, où un an auparavant, ils avaient essayé d'organiser au Maroc ce fameux pique-nique des déjeuneurs. J'avais trouvé ça absolument génial. Et voilà. Et donc, en soutien aux déjeuneurs du Maroc qui n'avaient pas pu faire ce pique-nique, j'organise un pique-nique sur une plage publique tunisienne. On n'a pas osé amener les bières quand même, mais, et on fait le pique-nique des déjeuneurs. Voilà, et j'en parle dans mon film, et après je l'interviewe, etc. Donc j'arrive à Paris, j'interviewe Ibtissam, etc. Je termine le film, je monte le film. Donc je suis pas chauve hein, au moment de Laïcité, Inch'Allah, parce qu'on me découvre un cancer pendant le montage. Et donc je suis en plein montage et je me dis, je peux pas dire à mes producteurs ce qui m'arrive là, parce qu'il faut absolument que je termine le film, etc. Et boum, la révolution commence en Tunisie. Et non seulement la révolution commence, et comme vous le savez, au bout d'un mois et demi, Ben Ali s'enfuit. Et là, je vais voir mes producteurs et je leur dis, mais on a terminé le montage, mais c'est foutu, le film, il n'a plus aucun sens. Il faut absolument que je retourne en Tunisie, tourner ces images de l'occupation de la Casbah, parce qu'on réclamait quand même la chute du gouvernement. Et surtout, les débats qui avaient commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, les premiers débats de la révolution, qui étaient les débats sur la laïcité. Et tous les tags des murs de Tunis pendant la Révolution, c'était démocratie, liberté, laïcité. Ou alors, la Tunisie sera démocratique et laïque. Enfin, vraiment, c'était ça. Donc je pars, il accepte, je pars tourner ces débats-là. J'en fais partie, parce que c'était le seul moyen. De toute façon, je m'étais déjà mise en scène dans le film avant. Et je finis par faire un montage où voilà, la période Ben Ali est encerclée par ces deux moments de la Révolution et de ces débats sur la laïcité. Et là, quand je sors le film en avril, moi j'avais coutume d'aller toujours présenter mes films en avant-première à Tunis. Je dis à mon producteur, on va y aller, parce que peut-être qu'on sera à Cannes, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai besoin de... Et le film, je décide de l'appeler « Ni Allah, ni maître ». Et là, grosse bagarre, évidemment, avec le producteur, avec tout le monde. Mais la directrice du festival Doc à Tunis a le courage de programmer le film en clôture de son festival avec ce titre, Ni Allah ni maître, et je débarque à Tunis, chauve. Non, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Et donc, je présente le film. Alors, tous les jours, j'allais afficher mes affiches. Ni à l'animette. J'ai oublié de vous apporter un exemplaire pour vous montrer, parce que j'ai un peu la nostalgie de ce titre. Et donc, tous les matins, je revenais et les affiches avaient été décollées, évidemment. Donc, je recommençais. Je disais, mais qui enlève mes affiches? Ah ben, on ne sait pas. C'est peut-être parce qu'elles plaisent aux gens. Ouais, tiens, mon œil. Et donc, arrive le soir de la projection. J'arrive et là, il y avait une manif de salafistes déjà. Avril 2011, hein, 3 mois après la Révolution. Il y avait déjà une manif de salafistes dans l'avenue Habib Bourguiba. Nous, on était dans une rue adjacente. Et j'arrive et je vois les grilles fermées. Je dis, putain, ils n'ont quand même pas déprogrammé le film. C'est pas possible. Et puis bon. Et ils avaient ouvert une toute petite porte comme ça pour filtrer les gens. Donc, je recolle mon affiche. Et les gens commençaient à rentrer. Une salle de 600 personnes. On projette le film avec Niall Animettre. Je fais une déclaration, évidemment, devant. Je suis interviewé par une radio. Et là, je dis ce que je dis dans le film, que je suis athée. Et j'ai... Enfin, je connais bien mon pays hein, et ma société.
Tu donc, le dis en arabe ou en français, à ce moment-là?
Bien sûr.
Oui, alors tu l'as dit en arabe.
Je ne crois pas en Dieu.
Et c'est ça ce qui est aussi important.
Je le dis en arabe et je dis en arabe « Kanihabbuhum ayemnu barrabbam tehum ». Si eux, ils veulent croire en leur Dieu, et ce geste-là, accompagnant, n'est-ce pas, la parole, mais encore une fois,
alors,
c'est je sais que
important.
C'est provocateur.
C'est le fait de le dire, et c'est le fait de le dire en arabe. Mmh. C'est en plus ça ce qui a le plus choqué, ce qu'on t'a reproché, en fait, ce qu'on vous a reproché, pardon, par la suite.
Oh non, tu peux me tutoyer. Hein. Et donc, je retourne en France pour des soins, etc. Et au bout de 2 jours, là, voilà, la toile s'est enflammée, les menaces de mort, les insultes, les images avec un couteau dans l'œil, ma photo dans les chiottes, moi déguisé en Gaddafi, enfin, parce que ça commençait la soi-disant révolution libyenne, etc., etc. Les menaces de mort même chez moi à Paris, obligé de quitter la maison, enfin bref. Et j'arrive à Cannes sous protection, soi-disant. Sous protection, parce que je n'ai eu de protection dans ma vie qu'à Cannes. Donc je leur ai dit, si vous aviez peur pour votre festival et pas pour moi.
Okay. Nadia, si vous permettez, on va passer à Betty.
Je vais juste finir sur une chose. Je ne sais plus où j'en étais. Non,
vas-y.
Non, très important. Voilà, très important. Et j'arrive à Cannes. Ça m'ennuie toujours de raconter ça, mais c'est quand même la vérité. J'arrive à Cannes, donc ni à l'animètre. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, qui invite tous les cinéastes tunisiens, comme c'est la Révolution, n'est-ce pas, à monter les marches. Il y en avait 50 invités de Tunisie. Je suis la seule à ne pas être invitée. Je suis la seule à ne pas monter les marches à côté des cinéastes tunisiens, alors que je suis le seul film tunisien présent à Cannes cette année-là, ni à l'animètre. Et donc, on projette le film. Il y avait quand même beaucoup de monde dans la salle. Aucun des cinéastes tunisiens n'a accepté de venir ni de signer la pétition qui circulait à ce moment-là. Ça, c'est une parenthèse pour la suite. Et des distributeurs français se déclarent intéressés par le film. Et la première chose qu'on me demande, c'est de changer le titre. Donc voilà, je voulais aller jusque-là pour vous raconter ça, pour raconter pourquoi Laïcité, Inch'Allah. C'était un titre que j'avais eu en tête avant ni à l'animètre. Je le trouvais trop mou. Donc, voilà. Mais j'ai gardé Inch'Allah parce que je trouvais que c'était quand même une claque dans leur gueule, pour reprendre les propos de notre ami tout à l'heure.
Bravo.